Le masque et la plume. C'est avec joie et émotion qu'aujourd'hui, Le Masque retrouve la scène de l'Opéra de Nancy pour le Livre sur la Place, première date d'une tournée du Masque qui nous mènera dans d'autres villes au cours de la saison. Pour cet épisode nancéen, merci d'accueillir à la tribune Arnaud Vivian de la revue Regard. Patricia Martin de France Inter. Elisabeth Philippe du Nouvel Obs. Et Jean-Marc Proust de Slate. Notre programme est évidemment consacré à la rentrée littéraire avec Tressaillir de Maria Pourchet, Au Grand Jamais de Yakuta Ali Kavazovic, Ramsès de Paris d'Alain Mabankou, La Maison Vide de Laurent Mauvignier et Aval de Séphora Pondy. Premier roman, autrice, auteur confirmé ou Goncourt pressenti, bienvenue au Masque en Lorraine aujourd'hui. Et j'ouvre le courrier de la semaine avec le mail de Mathias qui nous dit écouter Le Masque depuis Abidjan depuis plus d'une décennie. Cet auditeur remercie l'équipe pour l'éclectisme des programmes, éclectisme qui contredit l'algorithme. Voilà, pour les gentillesses, c'est fini. Et maintenant, passons à la suite. Le débat qui vous a fait le plus réagir concerne La Nuit au cœur de Natacha Apana, roman enquête sur des féminicides. Depuis la Savoie, Odile Bariel écrit, je cite, « avoir été extrêmement choquée par les critiques de deux hommes qui ont démoli le livre. Les pages sur la fuite des trois femmes et la description de leur peur est remarquable. » Hugo Trut de Paris 13e renchérit, « l'une des grandes qualités de Natacha Apana est toujours de peser avec l'assiduité d'une laborantine chaque mot. » Chaque virgule. Elle est précise et traite le lecteur avec un respect rare. C'est un livre que l'on porte en soi pendant plusieurs jours. J'espère qu'il rencontrera un public large. Il le mérite. Elle, au pluriel, le mérite. Thomas de Montreuil s'interroge. Comment ne pas être subjugué par la lecture genrée de vos critiques au sujet de La Nuit au cœur de Natacha Apana? Autour de la table, trois hommes mégotent ou détestent. Et une femme défend le livre coûte que coûte avec la rage qu'impose son sujet et son traitement remarquable. En l'occurrence, cette femme, c'était toi, Elisabeth. Depuis La Ciotat, Stéphane Guinoiseau anticipe notre programme du jour en nous prévenant « La Maison Vide » de Laurent Mauvignier est un livre hors norme, éblouissant, en un mot, un chef-d'œuvre, donc bien au-dessus de ce que j'ai pu lire, écrit cet auditeur. Il conclut « C'est un peu comme si vous savouriez un château Ikem après avoir goûté quelques jurançons flatteurs et sympathiques. » Œnologie toujours, Pierre-Wolf Mandrou, dans l'Essonne, souhaite, je cite, nous corriger en toute amabilité. Cet auditeur a entendu l'un d'entre nous comparer le nouveau roman d'Emmanuel Carrère à un très grand cru. Attention, précise Pierre, vous confondez cru et millésime. Un cru désigne une zone de production spécifique ou un terroir, comme un château d'Yquem, tandis qu'un millésime désigne l'année de vendange d'un vin. À la bonne vôtre, Le Masque millésime 2025, c'est parti. Depuis la scène de l'Opéra de Nancy, donc, où nous sommes pour le Livre sur la Place, on commence avec le nouveau roman d'une fille de l'Est. Je veux parler de Maria Pourchet. Après les succès de Feu et de Western, voici Tressaillir. Le personnage principal de Tressaillir est une femme qui part. Elle se prénomme Michelle. Elle quitte son foyer, donc sa fille et son compagnon, pour échouer dans un hôtel. Alors je dis échouer parce que la prétendue liberté du célibat et de la garde alternée n'a rien d'une épiphanie. C'est une chute un peu amortie par les antidépresseurs. Maria Pourchet écrit « Partir, c'est pour la galerie. En vérité, on s'arrache. » Et la différence entre partir et s'arracher, c'est que l'un des verbes est une boucherie. Cette femme qui part se prénomme Michelle. Elle écrit des livres jeunesse et pour la sortir de sa torpeur, son agent la pousse à animer un atelier d'écriture dans un lycée où Michel fut élève. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve pas loin d'ici, d'ailleurs, dans les Vosges. Et une fois sur place, Michel fait face à son passé et aux peurs qui l'ont façonné. Patricia, depuis l'opéra, c'est à toi.
Alors, a priori, on pourrait se dire que, et je reprends ses propres termes, que c'est la plainte d'une bourgeoise disponible
Ça fait envie.
Mais qui se fait des nœuds au cerveau, parfois, on peut se dire ça. Et en fait, c'est pas ça du tout, parce que la douleur dont elle parle, c'est une douleur animale, c'est une douleur viscérale. La peur est aussi au centre du récit. Il n'est qu'à voir d'ailleurs quand on se promène à la campagne, ce que fait régulièrement Arnaud Vivian. Quand on voit une biche ou un chevreuil au loin, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils détalent et ils se cachent. Et elle fait ça. Elle passe sa vie à faire ça. Et tout passe par le corps, un corps complètement disloqué. À la presque toute fin du livre, on comprend qu'elle a été probablement son élément fondateur, en tout cas son point de départ. Il y a un chapitre absolument déchirant sur un petit garçon. Et puis elle a vu...
On dit trop, là.
Non, mais bon, voilà, il y a plein de petits garçons.
Tu divulgages un peu, là, quand même.
Non, mais qui après, alors je dis...
Déjà que le roman, il n'y a pas grand-chose dedans, mais si tu dis la fin...
J'en étais sûre. Pourquoi il n'y a pas grand-chose dedans ? Il y a la douleur extrême d'une femme qui passe par le corps, je le disais, et le langage ne vient qu'après, parce que le langage qui a tout prévu, dit-elle avec beaucoup d'élégance. Il y a des scènes avec son psy, c'est peut-être ça qui t'a pas plu. Est-ce que tu fais ça, toi, avec
la tête ? Je vais en parler.
Le psy, il se tourne la tête, et la nuque comme ça dans les deux sens avant chaque séance. Ouais. Il a l'air d'ailleurs d'être impatient, c'est peut-être ça aussi.
Non, il opine du chef, là, Arnaud. Arnaud.
C'est une vision assez bienveillante de la psychanalyse, par ailleurs, parce que le psychanalyste est quand même celui qui l'aide à régler son problème. Le problème, c'est que je n'ai jamais vu un psychanalyste aussi caricatural que celui-ci.
On dirait
un chasseur de fantômes. Le psychanalyste est une espèce de Ghostbuster. et donc, qui va chercher les fantômes dans l'enfance de ses patients. Non, ce n'est pas ça du tout, la psychanalyse. Mais c'est à la fois une vision bienveillante, mais caricaturale de la psychanalyse.
Mais en dehors de ça.
Sur le reste, je veux dire, moi j'ai lu des bons romans de Maria Pourchet, ils commencent à dater un peu, mais c'est la meilleure romancière d'Épinal avec Nicolas Mathieu. Vous savez qu'ils étaient ensemble au lycée, alors ils n'avaient pas exactement le même âge, elle a 2 ans de moins que lui, donc ils ne sont pas vraiment connus, mais c'est quand même la meilleure romancière d'Épinal. C'est une styliste, et on le voit dans les 50 premières pages, parce qu'elle a une manière quand même d'utiliser la langue, et ça devient rare, les stylistes aujourd'hui, dans le roman, et le roman devient lui-même assez rare.
Tu es en train de nous dire que c'est bien écrit.
Oui, sauf qu'au bout de 50 pages, ça devient strictement n'importe quoi. Les personnages ne sont pas développés, cette histoire n'a ni queue ni tête, et surtout, il y a un mensonge
structurel. C'était n'importe quoi dès le début.
Je voudrais juste en terminer là-dessus. Il y a un mensonge structurel, c'est que on croit qu'on va lire un roman et en fait on lit une autofiction.
Elle n'est pas la seule.
Elle revient donc à Épinal sur les lieux de son enfance et nous n'en dirons pas plus.
Jean-Marc.
Moi, j'étais gêné parce que dans ce livre, évidemment, elle nous dit qu'elle vient de Nancy et puis elle écoute Le Masque et la Plume, mais ça fait 2 totems d'impunité.
Oui,
on pouvait rien dire.
C'est une demi-ligne dans un livre. Arrête.
Mais ça m'a marqué. Je me suis dit, je peux.
C'est
une mauvaise.
En plus, c'est le signe qu'elle va mieux. C'est quand elle sort de la dépression.
Oui, absolument.
Elle écoute Le Masque et la Plume. Donc c'est quand même très très bon signe.
Bon, est-ce qu'il y a des dépressifs dans la salle?
Moi, elle n'est pas dépressive, je te signale. D'ailleurs, son psy le lui dit. Vous avez besoin d'être rassurée. Vous n'êtes pas dépressive.
Il y a quand même un faux rythme en permanence. C'est soporifique. Alors après, le personnage est dans un état flottant permanent à cause des antidépresseurs. Donc, le livre s'adapte à ça et on peut s'endormir progressivement sans attendre les 50 pages. Je crois qu'il y a quand même effectivement du style. C'est-à-dire que c'est stylistiquement quelque chose d'assez bien léché, travaillé. Il y a quelques phrases, j'en ai retenu une, et tout semblait aller comme rarement de soi. C'est-à-dire que c'est une expression que tout le monde connaît, et avec ce « comme rarement » qu'elle ajoute dedans...
Elle l'a tort
et elle lui fait dire autre chose. Je suis resté totalement insensible à ce qui arrive au personnage. En revanche, quand elle commence à parler des forêts, là, il se passe quelque chose. Vous lui donnez un épicéa, des hêtres. Et d'un coup, ça s'anime, ça bouge, ça vit un petit peu. Donc je pense qu'il faut qu'elle fasse des romans sur les arbres plutôt que sur les personnages. Et en trouvant éventuellement un atelier d'écriture à l'ONF.
Non, elle sait très bien parler du couple aussi, en dehors des arbres, selon moi.
Mais ce qu'ils supportent pas, là, les deux garçons, c'est qu'une femme puisse dire... faire ça à son mec et partir.
Tu vas pas nous faire toute l'émission sur les garçons et les filles, quand même.
Pourquoi pas ? Il y en a quand même beaucoup.
C'est bon, là.
Non, mais c'est pas un propos hyper subversif.
Un peu vintage, comme dirait l'autre.
Je comprends pas pourquoi ça vous est aussi insupportable, ce texte. Ça a l'air d'être épidermique chez vous.
La parole est à Elisabeth.
Je vais essayer de réconcilier tout le monde. C'est la mission que je me suis donnée ce soir.
Bonne chance.
Pour ce livre. Non, c'est indéniablement une styliste, Maria Pourchet. On le sait, il y a ces phrases qui fusent, qui claquent, ces formules. Alors, même s'il faudrait pas que ça devienne un tic non plus, cette vélocité qui fait vraiment la particularité et la force de son style et qui parvient quand même, elle arrive à donner de la tension dramatique à une scène d'arrosage de balcon. Donc, c'est chez n'importe qui d'autre, ça deviendrait une fiche du catalogue Rustica.
C'est la première page quand même, là.
Oui, mais...
Le problème, c'est que la première page, elle est très réussie.
Voilà, ce qui prouve que quand même, elle a ce talent.
Mais après, il y en a d'autres. C'est ça le problème.
Non, et alors, si le titre n'avait pas déjà été pris par un autre écrivain natif de Nancy, en l'occurrence Éric Reinhardt, ce livre aurait pu s'appeler L'amour et les forêts ou Le désamour et les forêts. C'est une femme qui rompt non seulement avec son compagnon, le père de sa fille, mais qui rompt aussi avec des récits, qui rompt avec les.
Avec
les
une lignée familiale.
Avec une lignée
de
familiale.
De femmes qui ne sont pas parties.
Et puis tous ces contes, parce que la forêt, c'est aussi la forêt de contes de fées, c'est la forêt de Blanche-Neige. Elle rompt aussi avec tous les contes qui l'ont constituée comme femme, avec lesquels elle s'est construite, soit une femme qui doit s'épanouir avec un prince charmant, avec un mari, et donc quitter pour elle, rompre, c'est rompre avec tous ces contes, tous ces récits qui l'ont structurée. Bon, une fois qu'on a dit ça, pour moi, c'est là que le bât blesse, c'est plus le propos derrière ce style assez brillant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que quand on est seul, on redevient une proie. C'est très insistant. Son héroïne se surnomme biche. Je trouve que c'est quand même un propos un peu dépassé. Il n'y a rien de très, très moderne à se dire que je quitte un homme et donc je suis une femme libre. J'ai l'impression qu'on
mais elle
on
déplore
en est revenu
cette absence de modernité.
Oui, mais tout en réactivant quand même, je trouve, beaucoup de stéréotypes de genre. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence dans le livre de Maria Pourchet qui me laisse un peu sur ma faim. Je trouve que ça ne marche pas.
Tressaillir, de peur, de joie ou de plaisir. Tressaillir, donc, de Maria Pourchet, est publié chez Stock et figure dans la première sélection du Goncourt. C'est aussi le cas du roman dont on va parler maintenant, à savoir La Maison Vide, de Laurent Mauvigné, déjà couronné par le Prix littéraire du Monde et par le Prix des libraires de Nancy. Le narrateur de ce roman revient dans une maison familiale pour y chercher la Légion d'honneur d'un aïeul. Dans cette maison trône un piano. Non mais, ah oui, d'accord. Là, je précise que Jean-Marc Proust est en train d'ouvrir du beurre et de se faire une tartine.
Je tartine comme Mauvigné.
Ah, oh,
pas mal.
C'est scandaleux.
Le sens de la mise en scène. Tu permets que je finisse mon petit résumé?
Ouais, oui.
Donc, dans cette maison familiale où trône un piano, celui de l'arrière-grand-mère du narrateur, qui s'appelle Marie-Ernestine, il y a aussi des photos de sa grand-mère, Marguerite, qui est absente des photos, et quand elle y figure, elle a été raturée. Donc, le narrateur va reconstruire peu à peu son histoire familiale, guidée par un but, tenter de percer le mystère du suicide de son père. Et son enquête lui révèle que le rêve empêché de son arrière-grand-mère Marie-Ernestine est à l'origine de drames successifs, comme des ondes négatives qui se propagent de génération en génération et de décennie en décennie. Avec Marie-Ernestine, nous sommes à l'orée du XXe siècle. Elle a été mariée de force et brisée dans son élan pour devenir pianiste. Elle aura une fille, Marguerite, mal aimée, qui va traverser la Première puis la Deuxième Guerre mondiale en menant une vie qu'on dit scandaleuse. Donc c'est un roman ample, ce que Jean-Marc tentait de supposer, 750 pages, et je dirais une expérience de lecture dont on sort à coup sûr, en tout cas, avec le souvenir vif de Marie-Ernestine et de Marguerite. Mais vraisemblablement, ça n'est pas ton cas, Jean-Marc.
Au fur et à mesure de ma lecture, à peu près à chaque page, je me disais, est-ce que j'aime ce livre? Est-ce que je ne l'aime pas? J'avais beaucoup de mal à savoir. Je trouve que c'est extrêmement long et qu'il aurait sans doute gagné à être un peu plus ramassé. En revanche, je crois qu'il y a vraiment un travail littéraire très intéressant en ce qui nous fait un roman d'invention à partir du réel. C'est-à-dire que comme dans toute histoire de famille, on a des souvenirs, on a probablement des lettres, on a probablement des photos, on a probablement des documents administratifs d'état civil, comme il s'agit d'une exploitation agricole, il y a de la comptabilité. Et il part de ces documents pour reconstituer une histoire. Et à partir de ce moment-là, il est obligé de faire un travail d'imagination. Parce que on est quand même à la fin du 19e siècle, et donc il a très peu d'éléments. Il est en train de faire un puzzle dont il invente les pièces au fur et à mesure. Et comme c'est un texte d'imagination, il y a vraiment un travail sur la conjugaison qui est incroyable. C'est-à-dire que tout le texte est en mode conditionnel. Et donc il y a beaucoup de « on aurait pu »,« s'il avait »,« j'imagine que ». On est obligé de le suivre dans son imagination. Et là, il y a un tour de force en termes grammaticaux qui m'a vraiment impressionné. D'autant plus qu'à la fin, au fur et à mesure qu'on se rapproche de sa vie à lui, il y a un glissement progressif des conjugaisons vers des temps de l'indicatif. Quand les Allemands sont partis, les Allemands sont partis. J'ai dit que c'était un roman longuet, mais d'un point de vue stylistique et d'un point de vue invention littéraire, je le sauve quand même.
Et au présent de l'indicatif, c'est à toi, Elisabeth.
Oui, c'est sûr, Jean-Marc, que si tu as lu ce livre comme un précis de grammaire, je comprends que 700 pages, ce soit un petit peu long pour un précis de grammaire. Alors, ne l'écoutez pas, oubliez.
J'adore
je pense qu'il a fait une
grammaire.
Overdose de margarine Prime Vert. Enfin, pardon, j'ai pas le droit de citer de marque. Non, ce livre est largement au-dessus de tout ce qui paraît en ce moment. C'est sublime, c'est magistral, c'est une fresque familiale d'une ampleur hallucinante. Vous retrouvez le plaisir que vous procurent les grands romans du 19e siècle, qui sont d'ailleurs une référence explicite du texte, puisqu'il est beaucoup question des Rougon-Macquart. Il y a même les livres des Rougon-Macquart qui jouent un rôle important.
Et de Thérèse Raquin.
On ressent le même plaisir, le même attachement à des personnages qui, à mon avis, resteront aussi longtemps dans nos esprits, dans nos cœurs, que Gervaise, Nana, etc. Tu as parlé de Marie-Ernestine, mais alors je défie quiconque de ne pas pleurer en suivant la trajectoire de Florentin Cabanel.
Je n'ai pas pleuré.
Non, mais mange ta margarine. Florentin Cabanel, le professeur de piano de Marie-Ernestine, c'est absolument... On sursaute, on a vraiment ces émotions extrêmement fortes. C'est absolument magnifique. Et cette phrase de Laurent Mounier, c'est pas seulement une histoire de conditionnel ou je ne sais quoi, c'est la longueur de ces phrases, leur amplitude, on dirait des rhizomes sous terre qui forent la terre, qui forent le temps pour essayer d'arriver à l'origine, non pas du mal, mais du geste, parce que au cœur de ce livre, il y a quand même la volonté de Laurent Mounier de comprendre un geste, qui est celui de son père, qui s'est suicidé quand il avait 16 ans, et il explique que tout ce qu'il raconte là, en remontant au tout début du XXe siècle, ça a conduit à ce geste. Et c'est ça qui est magnifique, c'est montrer comment le passé s'incruste et comment il va provoquer, avoir des effets sur des années plus tard, des décennies plus tard. Et c'est ce qui est très, très beau. Et tu parlais du mélange de fiction, je voudrais juste venir là-dessus.
J'ai l'impression de l'avoir mieux défendu que toi.
Écoute, ce qui est magnifique dans ce que tu disais très bien, très juste, c'est la fiction qui incorpore dans ce récit familial. Et en fait, il incorpore énormément de références communes, de l'imaginaire collectif. Et il y a notamment cette scène de l'enterrement de Firmin. Là, on pense évidemment à l'enterrement à Ornans de Courbet, il y a des références à la littérature. Et tout ça, c'est notre imaginaire commun, et sa famille, c'est la nôtre aussi. C'est ça qui est si beau dans ce livre.
Et je pense qu'il va être difficile d'être plus enthousiaste qu'Elisabeth Philippe Arnaud.
Je ne trouve pas que ce livre, ce roman soit long. Il est gros. Moi, j'aime bien les gros. Même les petits gros, j'aime bien. Mais là, en fait, tout simplement, c'est un gros roman qui rappelle un peu les romans fleuves du début du XXe siècle, les Romain Rolland qui écrivait Les Thibauds, etc. Donc, c'est un roman familial, tout le monde l'aura compris. Hein. C'est un des grands monuments funéraires de cette rentrée avec le Emmanuel Carrère. C'est évident, hein, on est stupéfait par le côté colossal qu'il accorde à l'histoire de ses aïeux. Hein. Évidemment, c'est très littéral. C'est un roman familial, mais qui devient un roman national. Parce que c'est quand même...
C'est ce que disait Elisabeth, oui.
Voilà, ce sont des gens qui ont toujours vécu dans la même maison. Voilà. Et qu'est-ce qui nous traverse finalement ? C'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est la guerre, etc. Les guerres comme ça qui rendent malheureuses les femmes, c'est un roman pacifique, c'est un roman féministe. Comment des vies de femmes ont été brisées par la guerre ?
Patricia.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Elisabeth et Arnaud. Alors, contrairement, c'est marrant que tu aies parlé des Thibauds, parce que moi aussi, j'y ai pensé en le lisant. Mais dans les Thibauds, si mes souvenirs sont bons, ils partent quand même la fleur au fusil, ce qui n'est pas le cas, là. Non, mais moi, je dois dire que cette lecture m'a rendue groggy. Je l'ai fini un dimanche après-midi, j'étais sur un canapé, et je suis restée là pendant une heure, je ne pouvais plus bouger, c'est absolument captivant, c'est extraordinaire. C'est du Mauvigné, il n'y a pas à le comparer, mais c'est vrai que par moments, on pense à Zola, on peut penser à Balzac, on peut penser à Flaubert. Enfin, pour moi, Jules, il y a des moments quand tous les soirs, il se ramène avec son petit bouquet de marguerites, c'est Charles Bovary.
Tu exagères, Jean-Marc, parce qu'il y a des Proust dans cette famille.
Oui, mais en plus, il y a
trouve,
des Proust.
Ça se trouve, tes cousins de Mauvigné, tu le sais,
lui en veut.
Même pas.
Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il lui en veut. Et alors, et
non, quand je pense qu'il faudrait épargner Flaubert, Proust, on en fait ce qu'on veut.
Ah non, mais... Flaubert, excuse-moi, épargner Flaubert, pas du tout, je n'épargne pas Flaubert en disant que ces personnages sont autant de héros de la littérature. Je suis désolée.
Note de la rédaction, Proust, c'est le nom de Jean-Marc, hein, je le rappelle.
Quand il dit qu'il fait du sur-mesure pour cette histoire familiale, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un réel élucidé tout autant qu'une réalité fictive. Et il y a cette phrase, à un moment donné, qu'il dit dans une scène bien précise,
mon papa de 7 ans.
Déchirant, fulgurant,
magnifique.
Extraordinaire.
La Maison vide de Laurent Mauvignier est publiée aux éditions de Minuit. On continue avec Ramsès de Paris, signé Alain Mabankou. Les premiers mots de ce roman sont ceux d'un avocat, puisque le narrateur du livre risque la prison. Le dernier chapitre vous révélera pourquoi. Ce narrateur s'appelle Berado, et s'il prend la plume, c'est grâce à un certain Ramsès, réceptionniste d'hôtel, impliqué dans des affaires plus ou moins licites. Derrière son comptoir, Ramsès a écouté le récit et les rêveries de Berado, exilé congolais dans le quartier de Château-Rouge à Paris. Si Berado prend la plume, c'est fort des lectures de dizaines d'ouvrages que Ramsès lui a envoyés en prison, et la plupart des titres de ces ouvrages sont ceux des chapitres qui composent le livre. Donc il y a un chapitre « Les cigares des pharaons », album de Tintin, il y a un chapitre « Bonjour tristesse » de Sagan, en passant par « Éboueur sur échafaud » d'Abdelhafed Ben Othman, à qui Mabankou rend particulièrement hommage. À Ramsès, Berado raconte ses gloires et surtout ses déboires en s'autorisant des digressions multiples. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est la ponctuation, puisque le texte n'a ni point en fin de phrase, ni majuscule au début. Tirez à la ligne, ouvrez les guillemets, le micro est à toi, Arnaud.
Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait, dans cette rentrée quand même très funéraire, très en noir et blanc, soudainement, il y a de la couleur. Rien que la couverture de ce livre est très, très belle. On a tout de suite envie de le prendre en disant, oh, c'est gay. Et effectivement, c'est très marrant. C'est très balèze techniquement. C'est une espèce de ruban de Möbius entre la fiction et la réalité, avec un mélange de culture haute et basse. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça parle des pieds nickelés et de Jean Genet, de Papa Wemba, qui est la star de la musique congolaise, et je veux dire, il est là, je veux dire, il y a quelque chose de très musical.
De Férégola aussi.
Et en même temps, c'est une vraie réflexion sur la question de l'immigration, sur un vrai reportage à Château-Rouge, le quartier à Paris.
Et donc, et sur les micro-sociétés des exilés à Paris.
Oui, et très beau, c'est-à-dire que c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui, comment dire, son mentor, hein, son modèle, est parti le premier en France, il va le rejoindre. Il y a plein de punchlines. Il y a un moment, ce personnage, il dit de lui, on ne sait pas s'il écrit pour braquer des banques ou s'il braque des banques pour écrire. Parce qu'en fait, il écrit à chaque fois en prison. Et donc, il envoie une liste de lecture. C'est très beau comme idée. Liste de lecture pour son copain qui a été emprisonné. Non, je trouve que c'est un très grand Alain Mabankou.
Elisabeth, tu es de cet avis?
Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un très grand Alain Mabankou. Moi, je te rejoins complètement sur ce que tu dis sur la façon dont il parle de l'exil. Je trouve ça très beau, notamment cette façon de montrer à quel point il y a un besoin de fiction, de sublimation pour supporter le fait d'être loin de chez soi, d'où la présence de toutes ces références à d'autres textes. Et aussi, ce qui est très amusant, c'est que ce quartier de Château-Rouge, ça devient un royaume. Lui-même se surnomme le prince de Zamumba, en référence au film Un prince à New York d'Eddie Murphy.
Même c'est beau comme référence.
Il se crée une sorte de fiction pour supporter le réel. Donc ça, je trouve ça très beau. Le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve qu'il y a un jeu très amusant avec le langage aussi, un détournement de proverbes ou d'expressions françaises. Par exemple, caresser dans le sens des aiguilles d'une montre suisse. Enfin, ce genre de choses. C'est assez amusant. Bon. Mais malgré tout, moi, il y a un moment, le fait que ce soit tellement décousu, tu parlais de ruban de Möbius, mais il est un peu... Un peu tordu dans
tous
les sens.
Ah oui, à côté chez Erazade. Il faut continuer à raconter.
J'ai un peu perdu le fil, justement.
Prêt parce qu'il brouille les pistes en permanence.
Oui, mais à la fin, il y a une vraie concentration sur cette histoire d'amour.
Oui, mais on est passé par beaucoup de détours. Et je trouve qu'à un moment, le réceptionniste Ramsès sert un thé sri lankais au narrateur. Il a des vertus narcotiques. J'ai l'impression d'en avoir bu un petit peu aussi.
Mais oui, c'était l'idée.
Jean-Marc.
C'est un bouquin qui fait 250 pages. Je l'ai lu trois fois. Mais souvent parce que je retenais pas ce que j'avais lu auparavant, donc je retournais en arrière une fois, deux fois, jusqu'à ce que ça finisse par imprimer. Ce qui m'a surpris dans ce livre, c'est que la promesse, c'était que j'allais me marrer. Et en fait, non, j'ai trouvé que toute la partie drôle tombait à plat, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeux de mots qui pour moi ne fonctionnaient pas, qui étaient un peu lourdingues. En revanche, j'ai trouvé qu'il y avait, dans les références de culture haute et basse, comme tu disais, quelque chose de délicieusement suranné. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, il parle de Barbara Cartland, c'est-à-dire qui connaît Barbara Cartland aujourd'hui?
Quand même, c'est notre idole à tous.
C'est probablement ton idole. Mais je ne sais pas si elle a encore beaucoup lu pour les personnes qui sont nées au XXIe siècle. Sa compagne est une pervenche. Plus personne ne sait quel est ce métier aujourd'hui. J'ai trouvé ça assez délicieux. Et puis, il y a des passages sur la communauté camerounaise à Paris qui sont merveilleux.
C'est-à-dire
ils sont tous extrêmement diplômés et ils se retrouvent à être livreurs ou maçons dans des chantiers. Et pour ne pas froisser le chef de chantier, ils se sentent obligés de parler moins bien que lui. Alors qu'évidemment, ils sont capables tous de parler à l'imparfait du subjonctif et ils vont faire des fautes d'accord évidentes pour pouvoir se faire reprendre par le chef de chantier. Et il ajoute là-dessus une sorte de paquet cadeau délicieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il écrit « Nous vouions à Benoît une admiration sans borne ». Le verbe « vouer » à l'imparfait, je savais même pas que ça existait. Et d'ailleurs, quand j'ai recopié
le texte sur Word... T'es vraiment obsédé de la conjugaison, ouais, je découvre ça.
Ce soir, c'est vraiment mon truc.
Ouais.
Et vous connaissiez le verbe « vouer » à l'imparfait?
Enfin, on l'emploie pas souvent, c'est vrai.
On l'emploie pas souvent, et Word ne le reconnaît pas. Et donc, là, je lui dis merci pour ça.
Il est dans mon bled.
Tu parles du Becherel.
Ouais.
Patricia.
Moi, j'adore la façon, dont il donne à voir cette communauté d'immigrés, parce que, en général, qu'est-ce qu'on voit? Un groupe, une masse compacte, ou alors c'est un étendard politique. Or, ici, ce sont tous des individus extrêmement distincts les uns des autres, des hommes, des femmes, qui sont peut-être tous noirs, mais qui viennent de pays tous différents et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc ça, je
trouve
ça
formidable. Il y a des blagues avec les Angolais et les Congolais qui sont extrêmement drôles.
C'est formidable. Il a un sens de la dérision. Il y a une gaieté, une présence. On a envie de les connaître.
Et en même temps, il y a une addition de nostalgie à travers.
D'une nostalgie. Et ces personnages sont complètement fantasques. Il y a même un vendeur de sable du Sahara. Il y a une vendeuse de produits pour décaper la peau noire, évidemment. C'est un conte, en fait. D'ailleurs, le père de Mabankou lui disait, je l'ai entendu le raconter un jour, mais toi, t'es pas un romancier, t'es un conteur. Parce que les romanciers, ça ment, sauf que les conteurs, ça dit la vérité. Et je trouve que ce livre fait ça. C'est un livre qui fait du bien. Et Mabankou, il écrit des livres qui lui ressemblent.
Ramsès de Paris d'Alain Mabankou est publié au Seuil. On continue avec Au Grand Jamais, cinquième roman de Yakuta Alekhavazovic. C'est l'histoire de deux femmes qui s'inventent l'une l'autre. La première est une mère qui invente sa fille en lui transmettant la littérature, une façon d'être, des intonations, des gestes. Et elle lui transmet une phrase énigmatique aussi. Elle lui répète « Il y a un don dans cette famille ». Cette femme a quitté l'ex-Yougoslavie communiste au début des années 70 pour s'installer à Paris. Et là, elle renonce à sa vie de poétesse. Des années plus tard, sa fille, devenue écrivaine, l'invente à son tour en émettant des hypothèses sur ce qu'elle a été, en explorant ce qu'elle lui a transmis et en racontant aussi des invisibilités successives. Quand sa mère était gosse, quand sa mère était poétesse dans la Yougoslavie communiste, quand, bien plus âgée, elle a dû disparaître derrière un masque pour se protéger de la Covid. L'invisibilité ultime de la mère, c'est évidemment sa mort, et c'est comme ça que le livre commence. Elle meurt seule, avec un livre à la main, et ce livre est celui que sa fille préférait quand elle était gamine. Elisabeth.
Moi, c'est magnifique. Comme souvent, Yakuta Alekhavazovic utilise, recourt au code du roman noir, mais qu'elle détourne et qu'elle nimbe d'un voile d'onirisme qui donne tout le charme à son écriture. Et donc là, la narratrice mène l'enquête pour essayer de comprendre mais pourquoi cette femme qui était si ardente, qui appartenait à un cercle de poètes qui s'appelait le cercle brûlant, pourquoi cette flamme qui habitait cette femme poétesse, pourquoi elle s'est éteinte? Et c'est non seulement la disparition de sa mère qu'elle veut élucider, mais c'est aussi la disparition du pays dont était originaire sa mère, et la disparition aussi d'un monde tel qu'on l'a connu, un monde d'avant Covid. Il y a toutes ces disparitions qui s'emboîtent. Je trouve que c'est extrêmement beau. Par son écriture enveloppante, un peu circulaire, elle crée une atmosphère vraiment à même de faire vivre ensemble les morts et les vivants, de faire vivre les fantômes, de les susciter, de les ressusciter. Moi, j'ai pensé un peu à Modiano, parce qu'il y a la guerre, évidemment, alors c'est pas la même guerre. Il y a ces fantômes, il y a ces personnages un peu interlopes, en l'occurrence, il y a Sacha, un type un peu étrange. Et j'ai pensé notamment à un livre de Modiano qui s'appelle Encre sympathique. Et je trouve que c'est exactement la même chose, c'est que à force d'écrire, Yakuta Alekhavazovic, elle fait apparaître, comme on fait apparaître les mots avec l'encre sympathique, elle fait apparaître sa mère. Et si je peux juste terminer, pour vraiment parler de la beauté des images utilisées par Yakuta Alekhavazovic, il y a ces deux fauteuils. Le fauteuil occupé par sa mère et le fauteuil qui était réservé à la fille.
Et qui est
vide. Qu'elles ne sont jamais assises sur ces fauteuils en même temps.
Arnaud, t'as ouvert ton carnet là.
Oui, alors bon, c'est encore une fois un tombeau, le tombeau d'une mère. Donc à chaque fois dans ces romans funéraires, il y a toujours donc de famille, il y a toujours un secret. Hein. Il y avait un secret chez Mauvigné, évidemment. N'importe quel critique un peu sourcilleux quand il l'a lu 13 fois dans le livre comprend que c'est le message. Hein. Il y a un don dans cette famille. Reste à savoir évidemment quel don. Et aussi au passage, qu'est-ce qu'une famille? Par exemple, le cousin qui dit que les livres ne l'intéressent pas, est-ce qu'il fait partie de la famille ou pas. Et très vite, on comprend, hein, quand même, quand on est encore une fois un critique un peu vétilleux, on comprend que ce don dans la famille, évidemment, c'est le don de l'écriture. Et qui serait-on, nous, critiques, pour dire que cette dame n'a pas le don de l'écriture ? C'est impossible, puisque c'est elle qui nous le dit qu'elle l'a.
Oh là là.
Patricia.
Comment enchaîner ?
C'est pour ça que je te passe.
Il y a le don de la critique.
C'est pour ça que je te passe la balle.
J'ai trouvé que c'était le thème central de ce livre, c'est la disparition, et c'est un thème romanesque, y compris quand c'est une voyelle qui disparaît. Et je trouve que c'est très beau parce qu'au début de cette histoire, au début du livre, il y a un choc, c'est-à-dire les premières pages, elles sont frontales, hein, et ça ne peut être d'ailleurs que comme ça. C'est la mère qui est morte dans son fauteuil. L'intuition de la perte, au fond, on l'a tous. Quand ça prend à un moment donné la forme comme ça face à soi d'un corps sans vie, c'est une toute autre histoire, et qui plus est, quand c'est son père ou sa mère. Et là, la mère qui, normalement, est une donnée de la vie, qui devrait être impérissable, voire même indéfectible dans le meilleur des cas, ben, un beau jour, elle vacille. Alors, il y a eu le vieillissement, il y a eu la maladie qui a précédé, et puis c'est précisément la disparition. Et là, ça devient un scandale. Là, on prend conscience, et c'est aussi ça pour moi que raconte ce livre, du sceau qui vous lie à votre propre mère. Cette empreinte, sceau au sens de l'empreinte, de la signature. Et ce texte rend très bien compte de cela. Qu'est-ce qu'on reçoit en héritage ? Est-ce que c'est un don dont tu parlais, Arnaud ? Et comment est-ce qu'on continue à écrire son histoire, surtout quand sa propre mère a, elle, cessé d'écrire pour des raisons qui n'était pas celle qu'on croit. Enfin, tout ça est à voilà. C'est un texte que j'ai trouvé extrêmement vibrant. C'est un texte pudique et où l'emploi du je n'a pas dû être si facile que ça. Et le je est parfois un peu tremblant.
Jean-Marc, vas-tu nous parler de conjugaison ?
Alors, je me suis dit que je n'allais pas parler de conjugaison exceptionnellement pour ce livre.
Ouf.
Mais pour moi, c'est un roman de la frustration et de la frustration de la narratrice qu'elle transmet à ses lecteurs parce qu'elle. Elle aborde une enquête qui est difficile. Elle a très peu d'éléments factuels pour retrouver ce qu'a été la vie de sa mère, poétesse, espionne, elle se hasarde en hypothèse. Et tout le roman est un roman de non-dit, à commencer par ce recueil de poèmes. Il y a 28 poèmes plus un poème disparu, qui est un poème interdit.
Recueil de poèmes que sa mère a précisément écrit et qu'elle a publié quand elle était en ex-Yougoslavie.
Merci pour le contexte, j'avais oublié. Et il y a un poème qui est interdit par le régime communiste et qui n'est donc pas dans le recueil, mais qui se transmet par tradition orale. Et elle cherche des éléments sur la vie de sa mère qu'elle trouve très, très difficilement. Et elle nous donne des indices de cette impossibilité à mener son enquête en disant « Ma mère est murée dans le silence, elle vit dans le clair-obscur, une femme disparaît », à des mots hitchcockiens. Donc c'est une enquête extrêmement difficile. Et à un moment donné, pour moi, la scène centrale, c'est le moment où, au début des années 90, au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, sa mère l'a fait venir pour utiliser une déchiqueteuse pour les documents familiaux. Et elle, toute jeune, assiste à ça sans savoir ce qui va être détruit. Et elle doit reconstituer une histoire à partir de ces lambeaux qui ont disparu. Et je pense qu'elle nous donne ce roman impossible de cette manière-là, à partir de lambeaux de mémoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un roman qui travaille l'imaginaire et qui travaille le non-dit.
Mais tu l'as aimé ou pas ? J'ai pas compris.
Je suis pas sûr d'avoir compris moi-même, mais je pense que je l'ai plutôt aimé.
Alors ça va.
Au grand jamais de Yakuta Ali Kavazovic est publié chez Gallimard. La
on
suite.
On est obligé de dire si on aime ?
La suite du. Peut-être est-ce le principe, va savoir. La suite du programme depuis le livre sur la place à Nancy, c'est Aval, premier roman de Séphora Pondy, qui est aussi scénariste, réalisatrice et pensionnaire de la Comédie française. Dans ce premier texte, Séphora Pondy consacre d'ailleurs des pages à la passion du théâtre et à la violence de ce milieu, puisque la narratrice est comédienne. Elle se prénomme L'âme. Ses parents sont camerounais, comme ceux de l'autrice, et elle dit avoir, je cite, « un profil rare. Je suis noire, jeune et grasse. » Les chapitres alternent entre le récit de l'âme et celui qu'elle fait de Tom, l'homme qui l'a agressé. L'agression vient d'avoir lieu quand le livre commence. Tom vérifie sa bouche devant une glace et entre ses canines, il y a un reste de peau noire. Dès le premier chapitre, Séphora Pondy écrit « Ceci n'est pas qu'une histoire de bouche, c'est une histoire de double. » Alors Tom est comme le double maléfique de l'âme. Avant d'être agresseur, il fut harcelé lui-même. Arnaud ?
Oui, bah déjà, à mon avis, c'est le meilleur titre de premier roman depuis Baise-moi de Virginie Despentes en 1994. Aval quand même, ça tout de suite, hein, ça voilà.
C'est pas forcément ce que vous croyez.
Non, c'est pas forcément ce que vous croyez, évidemment.
C'est juste dans l'esprit tordu d'Arnaud.
Et, non, pas du tout. Je lis Aval.
Non, mais tu l'aurais sur ton divan, Sephora. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Ah, je sais pas.
Tu lui demanderais pourquoi elle a choisi ce titre, quand même.
Tu dis Aval, tu penses Aval?
Mais si, on comprend bien pourquoi, puisque il y a cette agression qui est.
Parce que c'est un roman sur la dévoration.
C'est un roman sur la dévoration. C'est un roman qui a une modulation très particulière, très nouvelle, moi je trouve, concernant les violences sexuelles. La scène de viol au conservatoire avec une prof de théâtre, avec une de ses comédiennes qui relève réellement du viol, est une scène absolument incroyable dans la manière dont elle est racontée. C'est la première fois que je lisais quelque chose d'aussi fort, finalement. Et encore une fois, c'est une nouvelle manière, je trouve, d'en parler, peut-être parce que elle y met du romanesque et une vision dédoublée, finalement, à la fois de l'agresseur et de l'agressé. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire avec ce garçon. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. D'ailleurs, on ne connaît pas la dimension autobiographique ou pas. On sait bien qu'elle est pensionnaire à la Comédie Française, donc on imagine bien que les scènes de théâtre ont l'air tout à fait véridiques. Mais en ce qui concerne l'agression, est-ce qu'elle l'a réellement subie? Je n'en sais rien. Et puis il y a donc elle a grandi en banlieue. Il y a toute cette histoire. Il y a un Paris là qui Paris des années 2000. J'ai trouvé ça assez bien en fait.
Patricia.
Moi j'ai trouvé ça très très bien aussi. Ça m'a énormément plu, là, y compris la copine. Géniale. Elle chamboule tout. Elle est généreuse. C'est l'initiatrice. C'est un soleil absolu. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le parallèle justement entre ces deux trajectoires de l'âme et de Tom, deux écorchés, hein, deux corps souffrants qui sont en train de devenir des adultes, mais qui ont encore des doudous dans leur lit. Elle est surexposée puisqu'elle ne s'appartient plus. Il y a cette obsession de l'image. Et lui, il s'enfonce peu à peu dans l'obscurité. C'est aussi une victime, mais c'est un personnage extrêmement ambigu et avec un côté assez revanchard. Il y a aussi, mais c'est pas que sombre, parce qu'il y a toutes les sorties entre copains. Enfin, il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, et tout ça dans une écriture sauvage qui est par moments presque agressive, avec une rage sous-jacente et c'est une écriture très charnelle, en fait. Moi, ça m'a beaucoup plu.
Elisabeth.
Ouais, j'étais très sensible aussi à l'écriture, au départ, en tout cas. Elle a vraiment une façon d'écrire le corps, d'écrire le gore, même, parce que la scène inaugurale, on est quasiment dans du Stephen King, mais à Créteil-Soleil, hein, parce que ça se passe dans des toilettes d'un centre commercial, Créteil-Soleil.
Il y a du body horror.
Ouais, complètement. Hein, donc, il y a un côté très cru, puis c'est un mélange à la fois cru et châtié, cette langue. Parfois, il y a quelque chose de presque un peu désuet. Je sais pas si c'est le fait d'être nourri de textes, de théâtre, mais j'étais assez séduite par ce mélange. Après, justement, elle mélange un peu beaucoup de choses et c'est effectivement intéressant, ces destins parallèles entre ce garçon et cette jeune femme, mais elle met beaucoup, beaucoup de choses entre lui, ses frustrations de jeune adolescent, le porno, ses copains, elle, le théâtre, sa meilleure amie. Je trouve qu'à un moment, ça fait trop, il y a un peu à boire et à manger et j'ai pas pu tout avaler, voilà.
Jean-Marc ?
Je pense comme toi qu'elle mélange beaucoup trop et à mon avis, elle aurait gagné à ne pas faire un roman, mais à faire plusieurs nouvelles. Je pense que ça aurait eu davantage de force.
Ça se vend pas, les nouvelles.
Quel
oui,
cynisme.
Je comprends. Alors, on a eu Raphaël Quenard qui a fait un mauvais livre. On a Sephora Pondy qui fait un mauvais livre. La parité est respectée. Le fait de ne pas faire une nouvelle, elle est obligée de remplir. Tu parlais du côté gore. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la scène de sexe, je crois que c'est page 89, qui est une sorte de fantasme, c'est absolument grotesque.
Quand c'est pas les conjugaisons, on a droit au numéro des pages, t'as vu un peu. Il est quand même, il tourne à la maniaquerie. Hein.
Tu préfères la conjugaison?
Oui, très honnêtement, je les comprends mieux.
Oui, alors cette scène de sexe, on a l'impression que le type est équipé d'une perceuse. Je l'ai relu plusieurs fois, je comprends pas vraiment ce qui se passe, mais je me suis dit que c'était peut-être quelque chose dans le livre qui pouvait le sauver par le grotesque.
Aval à l'impératif, hein.
Je ne relève pas. Fin de la conjugaison pour moi.
Aval de Sephora Pondy est publié chez Grasset. Pour élargir encore ce programme, on passe à vos coups de cœur et on commence avec toi, Arnaud.
Alors, un gros livre, mais bon, j'aime bien les gros. 600 pages hein, quand même, Huysmans vivant d'Agnès Michaud. C'est une biographie romancée du célèbre écrivain Joris Karl Huysmans de la fin du 19e siècle qui a écrit ce livre culte et qui était culte, c'est ce qu'on apprend en lisant la biographie d'Agnès Michaud, qui était culte déjà à son époque, à rebours, qui a été un immense succès, qui lui valait des admirateurs et des admiratrices. Et donc c'est l'histoire de Huysmans. L'adjectif vivant est tout à fait juste et respecté. Et là, si vous voulez, ce qui est beau, c'est que on est à la fin du 19e siècle. Huysmans, ses potes, c'est Émile Zola. Il y a des pages sur Verlaine, parce que tout le monde s'occupait de Paul Verlaine, qui était complètement à la rue. On lui achetait des vêtements. Il y a une scène où ils vont acheter des vêtements à Paul Verlaine. C'est génial. Ses copains, c'est Léon Blois. Et c'est évidemment aussi les frères Goncourt de Nancy. Voilà. Et donc, tout ce beau monde est là. Et c'est... j'adore l'histoire littéraire. Elle rend ça. Et c'est aussi un très grand livre sur Paris de cette époque. Vraiment, c'est un boulot merveilleux. La phrase, ça se lit comme un roman. Je vous la sors, évidemment. Elle est galvaudée. Je l'entends bien, elle roule sur la jante. Mais, il n'empêche, ça se lit comme un roman.
Huysmans vivant d'Agnès Michaud, c'est au Cherche Midi.
Exactement.
Elisabeth.
J'ai choisi un livre de poche, Un autre m'attend ailleurs, de Christophe Bigot, qui paraît chez Point. Christophe Bigot, il raconte dans ce livre l'ultime passion de Marguerite Yourcenar. À l'époque, elle a 76 ans, elle vient de perdre la compagne de sa vie, Grace Frick, et elle s'éprend d'un jeune américain homosexuel qui s'appelle Jerry Wilson et qui est de 46 ans son cadet. Et c'est lui, donc, l'autre qui l'attend ailleurs du titre. En l'occurrence, elle quitte très précipitamment la réception à l'Académie française lorsqu'elle y est reçue en 81, alors que c'était quand même un événement, c'est la première femme à être élue à l'Académie française, et elle quitte la réception très vite pour retrouver ce jeune homme dont elle s'est complètement éprise. Et donc Christophe Bigot raconte ça dans une langue à la fois très ciselée, lumineuse, mais sans jamais pasticher celle de Marguerite Yourcenar, et en même temps on sent qu'il y a un mélange d'admiration chez Bigot et une pointe de cruauté pour raconter cette histoire faite de désir, parce qu'il y a eu du désir, de voyage, mais aussi de domination et de violence. C'est vraiment une histoire hors norme mais écrite de façon magistrale. Un autre m'attend ailleurs, de Christophe Bigot.
C'est chez Point. Ouais. Quant à moi, je vous recommande Une obsession, en tout cas sa lecture, puisque Une obsession est le titre de la nouvelle bande dessinée de Nine Antico, qui est aussi scénariste et réalisatrice. Son livre précédent s'intitulait Madones et putains, tout ça pour vous dire que c'est une autrice qui interroge les représentations féminines. Et avec Une obsession, elle revient à l'autobiographie, et son obsession à elle, c'est les garçons, l'amour et son besoin de séduire. Et pour explorer cette obsession, elle se rend à Venise, donc ville des amoureux et de Casanova, et chaque chapitre est précédé d'une page rouge où figure une citation. Et par exemple, il y a celle que j'ai relevée de Lucien Dazet qui dit « Ce qui manque à Venise, au fond, c'est un pendant féminin de Casanova qui ne soit pas une courtisane. » Et Nine Antico, elle, est à Venise après une rupture amoureuse et elle suit le cours des canaux de Venise pour interroger son désir, pour interroger le consentement, avec des souvenirs qui lui reviennent par éclats. Ce sont des dessins en noir et blanc, avec beaucoup de blanc, ce qui fait que ça souligne un trait, une phrase. C'est aussi, il n'y a pas de case, donc rien n'est figé. Je vous redonne le titre, Une obsession de Nine Antico, c'est publié chez Dargaud dans la collection Charivari. Patricia.
D'Agnès Gruda, ça finit quand, virgule, toujours, point d'interrogation. C'est aux éditions des Équateurs. C'est un premier roman qui...
Après la conjugaison, on a la ponctuation par Patricia.
Qui vient de recevoir le prix Stanislas ici à Nancy. C'est un bon gros roman. Il fait plus de 500 pages.
Ça va plaire à Arnaud.
C'est l'histoire de plusieurs familles polonaises. D'ailleurs, ça débute dans les années 50 à Varsovie. Il y a beaucoup de personnages et donc ça couvre plusieurs générations. Certains iront vivre aux États-Unis, dont d'autres au Québec. D'ailleurs, c'est le cas d'Agnès Gruda. Elle vit là-bas et encore d'autres en Israël. Et c'est une analyse très, très forte et vivante de ce que signifie quitter un pays, changer de regard pour apprécier un autre pays et tenter d'y être accepté. Ça s'appelle l'exil. Et ce que ça fait de revenir éventuellement dans son pays d'origine.
Ça finit quand toujours, d'Agnès Gruda aux éditions Les Équateurs. Jean-Marc.
J'ai failli parler du Becherel, mais... Je me suis rattrapé avec Un déni français, enquête sur l'élevage industriel, une enquête menée par Caroline Dussin aux éditions Récamier, avec un bandeau qui devrait nous poser question. 3 millions d'animaux tués chaque jour en France, 3 millions, dont les deux tiers sont des volailles, pour nous permettre de manger 85 kilos de viande par an, ce qui nous place à peu près au niveau des États-Unis et près de deux fois au-dessus de ce que consomment les Chinois.
C'est un roman.
Ça se lit comme un roman.
Je t'attendais.
Pardon. Avec une dimension autobiographique.
Ça se lit comme un roman.
Ah, je comprends la margarine, du coup. Tout commence à s'expliquer.
Oh tout était préparé. Là. Non, j'avais pas arrivé avec du beurre, évidemment.
Évitez-moi ça, mon sang.
Tu manges pas de beurre, blague à part, tu manges pas de beurre.
Ah non, je mange pas de beurre.
Non, mais on n'est pas encore, non, on va déguster de François-Régis Gaudry. Hein.
Son enquête montre le gros mensonge de l'élevage français qui nous fait croire que c'est un élevage de petits producteurs avec des animaux dans les champs. Et en fait, c'est une réalité fausse. C'est-à-dire que vous ne voyez quasiment jamais de poules et de lapins à l'extérieur. Ce que vous voyez, c'est des vaches qui représentent une portion infime de l'élevage. Tous les autres animaux sont élevés dans des cages. Et quand on dit l'élevage industriel, c'est à l'étranger, c'est le reste du monde, c'est faux. C'est également en France. Et d'ailleurs, la France exporte son savoir-faire et construit des usines à poules en Chine.
C'était Jean-Marc Proust, quasi chroniqueur au téléphone sonne. Un déni français, enquête sur l'élevage industriel de Caroline Dussin, chez Récamier. Jean-Marc Proust, Elisabeth Philippe, Patricia Martin, Arnaud Vivian, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque depuis l'Opéra de Nancy pour le livre sur la place. Jeudi prochain, 18 septembre, nous retrouverons le Théâtre de l'Alliance Française pour deux enregistrements où il sera question de l'actualité littéraire et des sorties de films en salle. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et c'était avec Florent Layani, Lucien Lefebvre, Thomas Robin, Charles Bouticourt, le tout coordonné par Guillaume Rialan. Ilinka Negulesco coprogramme l'émission et la prépare avec l'aide de Zora Degoute. Me reste à vous dire que ma bande et moi vous attendons dimanche prochain pour des enthousiasmes, des désaccords, une liberté critique dans tous les cas, sur France Inter, évidemment.